Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Vivante Église. La saison passée, nous avions lancé une série d'émissions dédiées aux Pères de l'Église, ces figures très importantes dans l'histoire du christianisme. Nous allons la reprendre et la poursuivre aujourd'hui en consacrant ce numéro à Tertullien. Et comme lors des précédents numéros de cette série, j'ai invité le père Édouard d'Ivry, frère dominicain et docteur en théologie, pour nous guider à la découverte de Tertullien, de sa vie, de sa théologie et de son œuvre. Bienvenue frère Édouard et merci d'être une fois de plus au rendez-vous de Vivante Église.
Je salue tous les auditeurs et vous Éric, grande joie toujours d'être avec vous.
Eh bien, c'est une joie partagée. Avant d'évoquer Tertullien, sa vie, son œuvre, petit rappel pour ceux qui découvrent cette série. Pourquoi est-il essentiel de revenir aux Pères de l'Église? En quoi sont-ils encore importants pour un chrétien de 2025?
Les Pères sont vecteurs de la tradition. On parle souvent de la tradition avec un grand T, en l'opposant aux petites traditions qui, effectivement, n'ont pas à demeurer peut-être toujours, mais qui permet de tamiser entre la grande tradition et les petites traditions, ce sont les pères de l'Église. C'est ceux qui ont interprété en premier la Sainte Écriture, les paroles des apôtres, et quand le dernier apôtre est mort, eh bien ce sont les pères qui ont été comme en quelque sorte les teneurs du passeur, du flambeau, et qui nous ont transmis cette foi qui est toujours la même depuis les origines. Et donc pour nous, c'est très important parce que si nous ne la lisons pas, nous risquons très vite d'être pris par l'idéologie, c'est-à-dire je tire une petite ligne de l'écriture, je la tords dans le sens de mon idéologie et j'en fais ce que je veux.
C'est donc Tertullien qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais vous demander d'abord de préciser à quelle époque et dans quelle région il a vécu, où est-il né, en quelle année, et que sait-on avec certitude de sa vie et de sa biographie?
Alors c'est vrai que c'est parmi les auteurs de cet âge patristique, une période dans laquelle on n'a pas tous les éléments que l'on souhaiterait, puisque c'est une période de persécution des chrétiens, et beaucoup de choses ont disparu.
On dit qu'il serait né vers 160 après Jésus-Christ, c'est la date qu'il faut retenir.
C'est à peu près la date qui est retenue par les savants. En tout cas, nettement avant Origène, donc c'est 25 ans environ avant Origène. Donc c'est pour nous, dans une série, c'est important de commencer par un auteur qui est plus ancien, parce que d'une certaine manière, il est plus aux origines. Quant à sa famille, c'est une famille de païens. Il n'est pas, a priori, du tout dans une ligne qui l'aurait conduit par sa famille au fonts baptismaux. Non, c'est lui-même qui, semble-t-il, touché par la vertu des martyrs, se serait converti par lui-même, alors qu'il a reçu une très bonne formation romaine. Son père est centurion, il appartient à l'ordre lui-même équestre, donc il appartient, je dirais, à la haute société romaine, avec toutes ses qualités littéraires reçues. Il lit le grec dans sa source, il cite les auteurs grecs et latins avec beaucoup d'aisance. On sent bien qu'il a eu une très très solide formation latine et grecque. Mais tout à coup, voilà que cet auteur, au lieu d'écrire en grec comme on aurait pu le penser à son époque, comme allant de soi, il est dans un milieu dans lequel on parle volontiers latin, parce que c'est le milieu dominant, le milieu, je dirais, des villes, le milieu de l'aristocratie et de la direction des affaires, et il va s'exprimer essentiellement en latin. Pour nous, c'est important parce que c'est le premier, dans le fond. Irénée avait écrit, vous vous souvenez, en grec, et on avait eu des traductions suite latines, mais il n'avait pas eu l'idée d'écrire directement en latin. Et là, au contraire, on a un auteur qui écrit directement en latin et qui va forger un vocabulaire unique pour nous, chrétiens, des origines de notre théologie morale, de notre façon de vivre.
Oui, alors une chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il est né à Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Et, bon, vous l'avez dit, famille païenne, mais romanisée, peut-être d'origine berbère, comme le futur Saint-Augustin.
Oui, on peut faire toujours des hypothèses, et c'est sympathique de les assimiler. En tout cas, Saint Cyprien fait le lien, puisqu'il a une énorme dévotion pour Tertullien, même si Tertullien a mal fini, comme on le dira dans quelques instants, en s'éloignant de la grande Église. Saint Cyprien continue à le vénérer comme un auteur de référence. Et lorsqu'il a besoin de travailler un texte, de préparer une homélie, de répondre à une attaque, etc., il dit à son secrétaire « va me chercher le maître ». Et quand il dit « va me chercher le maître », ce sont tous les livres, les très nombreux traités de Tertullien. Et que donc Cyprien cite volontiers. Cyprien est aussi d'Afrique du Nord, tout comme Augustin, évidemment. On comprend très bien que tout cela, c'est la même famille intellectuelle. Vous voyez, Tertullien, Cyprien, Augustin. Et nous sommes en Afrique du Nord, donc cette Afrique du Nord qui a donné une très très grande élite à l'histoire de l'Église.
Alors ce que vous avez précisé également, c'est que c'est un vrai grand érudit, hein, au sens où il a étudié, on peut citer quelques auteurs, Homère, Hésiode, Sophocle, mais aussi l'histoire, les sciences naturelles, la philosophie, même je crois un peu la médecine. Donc il s'est vraiment intéressé à tout. Il s'y connaît très bien en à peu près tout.
Oui, et c'était l'idée de l'époque de la formation des jeunes, c'est qu'on leur donnait une connaissance qu'on essayait d'être la plus universelle possible. Et c'est l'ancêtre de ce qui sera plus tard au Moyen-Âge, ces grandes formations universitaires qui reprendront toujours les mêmes grandes lignes. Il faut former les gens aussi bien en géométrie qu'en histoire, qu'en philosophie. Ça fait partie des grandes lignes pour que quelqu'un soit, dans le fond, capable de répondre, d'être responsable dans ce qui lui sera confié dans la vie ensuite politique ou civile.
Alors parmi les particularités de cet homme qui sort de l'ordinaire, il croit en la magie et aux démons.
Oui, ça parce que c'est après, bien sûr, son passage au christianisme qu'il y a cette adhésion. Les premiers écrits apparaissent vers 198, ça c'est une chose fixe. Et lorsqu'il s'exprime dessus, c'est tout simplement qu'il a lu dans les Écritures et puis il a fait l'expérience dans les assemblées chrétiennes qu'il y a de temps en temps des personnes qu'il faut exorciser. Pourquoi ? Parce que avant que le christianisme s'impose d'une manière massive, eh bien, il y avait beaucoup, beaucoup d'effets lointains et proches du paganisme qui avaient invoqué les mauvais esprits, qui avaient invoqué les démons, et beaucoup de gens étaient possédés, étaient marqués par ces mauvais esprits, et même si il y a eu tout un travail pastoral pour les libérer, sur le moment, ce n'était pas évident, évidemment, pour un ancien païen de voir la puissance de la grâce agir. Et il se souvenait en particulier d'avoir lu dans les Actes des Apôtres qu'il y avait eu même un faux chrétien qui s'était fait baptiser, Siméon, et qui avait essayé d'acheter la puissance des apôtres par de l'argent. C'est ce qu'on appelle après le simonisme. Siméon, le magicien, qui était sur l'île de Chypre, a essayé d'entourlouper Paulus, qui était le prêteur romain de la région, et de l'opposer à Paul, à Saint Paul l'apôtre. Et il a essayé d'utiliser les artifices de la magie. Il n'est pas arrivé, évidemment, Saint Paul ayant, au nom de Jésus-Christ, brisé cette arrogance.
Est-ce que l'on sait comment Tertullien va se convertir au christianisme et pour quelles raisons ? C'est pas très clair parce que lui-même ne s'exprime pas là-dessus.
Il ne s'exprime pas, ce n'est pas du tout dans l'esprit du temps. Il faut attendre donc Saint Augustin, et Saint Augustin, vous le savez, meurt en 430. Donc là, si on est en 185 au début de sa vie, vous voyez, il y a un temps considérable. La littérature romaine ne pousse pas du tout à s'exprimer sur soi-même. Seul à partir des confessions de saint Augustin, ce genre littéraire va tout à coup bousculer la manière de vivre romaine en disant on peut être vrai non seulement en proclamation, en dogmatique, je dirais, mais aussi vrai dans son orthopraxie et raconter sa vie, comment elle a été vécue et comment elle peut se vivre comme témoignage en quelque sorte. Mais cela n'existait pas avant, on était plutôt dans l'objectivité et des faits et l'objectivité des théories. Il fallait qu'elles soient vraies et qu'elles concordent avec la réalité et que, dans le fond, il n'y avait pas d'autre perspective. Donc, son attirance, par contre, vers les martyrs et sa grande dévotion vis-à-vis des martyrs apparaît dans son premier document, Ad Martyras, dans lequel il invoque cette puissance de l'esprit, dans lequel il est encore assez réservé. Plus tard, il va aller un petit peu trop loin en disant qu'il ne faut même pas résister aux persécuteurs, c'est-à-dire même pas fuir. Et même quand Jésus dit « Fuis, quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre », il trouve un autre verset pour le contredire et finalement infirmer le verset pour pousser celui qui est persécuté à rester, à se faire persécuter. Donc, à cette époque de sa vie, en 197, il n'est pas aussi rigide et il fait seulement l'éloge des martyrs en raison du témoignage, parce que ad martyras, en grec, ça veut dire sur les martyrs, hein, et c'est les témoins du Christ.
Alors, ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il s'est converti à l'âge adulte et qu'il s'est marié avec une chrétienne. Est-ce que ça a pu jouer dans sa conversion, le fait d'être marié avec une chrétienne? C'est possible.
Alors, tout est possible. Disons qu'il ne faut surtout pas pousser, puisque nous n'avons pas d'autres sources que les sources mêmes de Tertullien, il ne faut surtout pas jouer à ce genre d'hypothèse. Ça ne conduit à rien. Et finalement, il vaut mieux s'attacher directement à ce qu'il a écrit.
Une autre supposition, et ça je crois que c'est Saint Jérôme qui en parle, c'est que Tertullien serait peut-être devenu prêtre, même s'il n'y fait là encore aucune allusion, il se décrit comme un fidèle, ouais, un simple laïc dans ses écrits.
Oui, de fait, on n'a aucun passage qui traite en plus spécifiquement d'un rôle qui aurait pu être sacerdotal, puisqu'il ne traite que du baptême et de la prière, toutes choses qui sont communes au sacerdoce commun. Il n'y a pas de traité sur le sacerdoce, il n'y a pas de traité sur le grand prêtre. Et donc, nous n'avons rien qui puisse, le moins du monde, faire imaginer que Tertullien ait été prêtre. Les images que l'on a de lui, mais qui sont très très tardives, du 15e, 16e siècle, ne l'ont jamais représenté comme en prêtre.
Ce qui semblerait aussi, c'est que vers 205-206, il aurait pu se tourner vers un mouvement charismatique appelé la Nouvelle Prophétie, incarné par un prophète qui s'appelait Montanus. Qu'est-ce que l'on sait là-dessus et
alors,
de quoi s'agit-il?
Donc, c'était des courants qui étaient comme ceux qui venaient de Phrygie. La Phrygie est au cœur de l'Asie mineure et c'était des courants, d'une certaine manière, affectif très fort dans lequel on croyait rentrer dans une troisième révélation. Après la révélation du Père, la révélation du Fils, pouvait arriver la révélation du Saint-Esprit. Et certains se prétendaient, dans le fond, les porte-paroles de ce troisième temps, de ce troisième ère. Certaines femmes s'étaient fait ainsi proclamer le Saint-Esprit lui-même. Donc c'était vraiment comme une folie totale. Et c'est dans ces courants aussi qu'il y a eu des prises de position justement par rapport à la hiérarchie qui n'était pas dans la transmission des apôtres, mais des femmes ont été ordonnées évêques à ce moment-là. Ce sont des courants donc très très marginaux au catholicisme, mais qui attiraient beaucoup à cause de l'aspect très sensationnel des assemblées. Des guérisons, des prophéties, des cris. Et il faut savoir que malheureusement, les mêmes choses produisent les mêmes effets. De nos jours, on voit des effets assez semblables dans des resurgences d'une troisième vague de charismatisme, etc. Vous voyez les gens qui se mettent à crier des sons absolument insensés, etc. Et on se dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, à partir du moment où la raison ne suit pas la foi et que la foi ne prend pas corps dans la raison, eh bien, on risque d'être pris par ce qu'on appelle la sensibilité seule. Et la sensibilité peut conduire à des passions désordonnées. Je pense que malheureusement, c'est ce courant qui venait de Phrygie, donc qui a eu un peu de relief en Afrique du Nord, avec Montanus, cet ex-catholique, prêtre, qui avait formé sa propre secte. Tertullien va s'intégrer probablement à partir de 213 à cette secte, mais progressivement, il va beaucoup la critiquer, il va former sa propre secte lui-même, et qui finalement ne sera résorbée qu'à l'époque de Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin qui va convertir les derniers montanistes, et il en aura beaucoup de joie. Et on comprend pourquoi Benoît XVI avait tant d'espoir au début de son pontificat d'essayer de réconcilier les séquaces de Mgr Lefebvre, parce qu'il se sentait une âme augustinienne. Il aurait bien voulu tendre la main à ses frères, qui dans le fond restaient des frères, parce que c'était quand même des chrétiens, ces montanistes, mais qui avaient dévié en quelque sorte vers des positions extrêmes. Et il avait voulu leur tendre la main et les réconcilier avec l'Église, comme Saint Augustin a réconcilié les derniers montanistes à l'Église de Dieu. Malheureusement, il n'y est pas arrivé, mais l'idée est toujours là, et qui sait si les nouveaux pontifes ne relanceront pas la chose.
Pour revenir à Tertullien, il meurt vers 220. Si on en vient à son œuvre, il y a beaucoup d'écrits. Il a laissé beaucoup d'écrits qu'on peut lui attribuer a priori de sources sûres. Et donc, dans des domaines très différents, mais il y a deux grandes familles, je dirais. Il y a des œuvres dont le titre, c'est « Contre quelqu'un, oui. Contre quelque chose, contre un mouvement ». Donc, il y a « Contre Hermogène », »,« Contre Marcion », »,« Contre les Juifs », »,« Contre oui. les Valentiniens », »,« Contre les spectacles ».
Oui, oui. Alors, il y a d'une part les œuvres dites apologétiques, car il faut le considérer comme un apologète, hein, ad nationes et apologeticum, qui est le plus célèbre de ses œuvres, l'apologie proprement dit, qui est adressée aux empereurs. Cela faisait partie de l'écrivain comme Justin ou comme d'autres que nous avons croisés, qui s'adressait aux empereurs pour diminuer la persécution romaine. Il faut ne pas oublier que nous sommes en persécution romaine depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a eu donc 310 ans, 320 ans de persécution romaine contre le christianisme. Le christianisme est né dans un bain de sang. Et donc il y a ces œuvres-là. Et d'autre part, il a rencontré des adversaires qui déviaient. Et c'est pour cela qu'on voit ad Martionem, contre Marcion, ou ad Praxeam, qui va laisser aussi pas mal de traces, que c'est là où il dira des choses assez extraordinaires sur le mystère trinitaire et le mystère du Christ, contre Praxeam. Et vous aurez d'autre part des traités pour eux-mêmes qui vont dans le sens tout simplement de ce qu'est un chrétien, comme déorationné sur la prière. On trouve un parallèle chez Origène qui est tout à fait très beau et très nourrissant d'un point de vue spirituel. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer à lire Tertullien. Des baptismaux sur le baptême, des patientia sur la patience, des penitentia sur la pénitence. Et c'est là où il ne reconnaît pas la possibilité, dans la deuxième partie de sa vie, la possibilité de refaire une deuxième pénitence. Dans la première partie de sa vie, il pense que c'est encore possible de refaire une pénitence. Mais dans la deuxième partie de sa vie, il va dire « Non, on a une pénitence et puis c'est terminé ». Alors, vous voyez, vous avez intérêt à faire vos Pâques d'une manière la plus profonde possible, parce que si vous ratez le coup, si vous suivez Tertullien, après ça, c'est fini. Hein.
Nous allons rester là concernant la vie de Tertullien et la présentation générale de ses écrits, d'après oui. ce que l'on connaît de sa biographie et de son œuvre. Dans quelques minutes, nous allons parler de sa théologie et de sa morale. Avant d'y venir, nous allons faire une pause dans cette émission en musique comme d'habitude. Nous allons écouter le Stabat Mater de Vivaldi dans une version avec le contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous revoici à l'antenne, je suis toujours en compagnie du père Édouard d'Ivry, frère dominicain à Toulouse, docteur en théologie, pour cette émission consacrée à Tertullien, dans le cadre de notre série consacrée au père de l'Église. Et en parlant de père de l'Église, le fait que Tertullien soit reconnu comme l'un d'entre eux fait-il complètement consensus au sein de l'institution? Il semble que non.
Non, de fait, le mot père de l'Église, on en a donné les définitions, c'est bien précis, il faut quelqu'un qui soit en communion avec tous, partout et toujours. Et je donne la parole à Benoît XVI qui l'exprime très très bien à propos de Tertullien. Cette grande personnalité morale et intellectuelle, cet homme qui a apporté une si grande contribution à la pensée morale donc chrétienne, me fait beaucoup réfléchir. On voit qu'à la fin, il manque de simplicité, il lui manque l'humilité de s'insérer dans l'Église, d'accepter ses faiblesses, d'être tolérant avec les autres et avec lui-même. Lorsqu'on ne voit plus que sa propre pensée dans sa grandeur, à la fin, c'est précisément cette grandeur qui se perd. Le caractéristique essentiel d'un grand théologien est l'humilité de demeurer avec l'Église. Et donc, c'est ça qui a manqué, visiblement, à Tertullien, qui est passé chez les montanistes.
Alors, je vais aller vous demander ce qu'on lui reprochait. Benoît XVI a totalement répondu à la question.
Exactement.
Pas la peine d'aller chercher plus loin. En revanche, si on essaie de définir ce que sont la théologie et la morale de Tertullien, que peut-on dire à leur propos?
Alors, la théologie, c'est surtout là que Tertullien a été si brillant, puisqu'il a su exprimer le mystère de l'unité de Dieu, ce qui n'était pas si évident à dire, alors que les évangiles affirmaient très nettement cette unité, mais en même temps affirmaient qu'il y avait le Père, dont Jésus nous révélait l'identité, lui-même était le Fils, et nous annonçait le Saint-Esprit. Comment tenir un, d'une manière si forte à la manière vétérotestamentaire, et Jésus est juif, et d'autre part affirmer cette trinité? Eh bien, je vous donne par exemple dans son traité Ad Praxeam, contre Praxeam, tout dérive d'un seul en gardant néanmoins le sacrement de l'économie qui divise l'unité en trinité. C'est la première fois que le mot trinité apparaît dans la littérature latine. Où nous distinguons trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont trois, non pas en essence, mais en degré, non pas en substance, mais en forme, non pas en puissance, mais en espèce. Tous trois ayant une seule et même puissance, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu duquel procèdent ces degrés, ces formes et ces espèces, sous le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Ce praxéan était ce qu'on appelle un modaliste, c'est-à-dire il s'imaginait que les évangiles, dans le fond, c'était des affabulations. Ce qui était la vérité, c'était les vérités permanentes de l'Ancien Testament, Dieu un, et puis c'est tout. Mais que Dieu pouvait apparaître de temps en temps comme un Père, de temps en temps comme un Fils, de temps en temps comme un Saint-Esprit, mais qu'il n'y avait pas de distinction réelle en Dieu. Eh bien, Tertullien va le bazarder en lui disant « Mais non, pas du tout. Si tu lis les textes d'une manière rigoureuse, il y a vraiment une distinction entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Saint-Esprit, entre le Père et le Saint-Esprit. Et donc, tu ne peux pas faire ce jeu qui sera le jeu des Sabellius et d'autres latins qui iront dans ce sens d'une atrophie du mystère trinitaire pour le réduire finalement à l'unité de Dieu seulement. Donc il y a toujours un risque, si vous voulez, quand on dit la Trinité, c'est d'oublier l'unité, mais il y a aussi l'autre risque, c'est que en disant l'unité, on y absorbe d'une manière excessive la Trinité. Il faut tenir les deux à la fois. Et on peut dire que c'est le premier à tenir les deux à la fois. Je vous donne un autre passage, toujours dans cet Adversus Praxeam au numéro 9. J'affirme que le Père est autre alius, le Fils est autre alius, l'Esprit est autre alius. L'inculte ou celui qui pense de travers comprend mal cette affirmation en pensant qu'elle indique une diversité et que cette diversité entraîne une séparation du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la diversité que le Fils est autre que le Père, mais par la distribution, ni par la division, mais par la distinction, car le Père et le Fils ne sont pas le même, et dans la mesure où l'un procède de l'autre, le Père est en effet la substance totale, tandis que le Fils est une dérivation et une portion du tout. Alors la finale est peut-être un peu moins bonne, hein, dire que le Fils est seulement portion par rapport au Père, ce sera corrigé par saint Augustin et par les grands théologiens de la Trinité. Mais disons qu'il a amorcé la façon de mettre son intelligence au service de la foi, où Jésus, tout au long de son ministère, nous a rappelé le schéma Israël, je crois, en un seul Dieu, hein, Adonai Echad, le Seigneur est un, et en même temps, il nous a révélé l'identité du Père, l'identité du Saint-Esprit, et qu'on ne peut pas séparer les uns les autres. Et autre passage important de ce même Adversus Praxeam, c'est les premières fois qu'il y a l'expression du mystère de l'incarnation, car il n'était pas facile de comprendre que le Verbe s'est fait chair en restant le Verbe. Arius, quelques centaines d'années après, va croire que le Verbe se transforme en chair. Il ne va pas du tout croire que le Verbe reste identique à lui-même en assumant la chair. C'est-à-dire qu'il n'a pas les mots pour le dire, alors que déjà, Tertullien, bien avant les divisions de l'arianisme et tout ce que va susciter ces grandes divisions en organes, a déjà les mots exacts. Et c'est pour cela que la théologie occidentale sera tellement à la page avec Léon le Grand au moment du concile de Chalcédoine pour répondre aux erreurs arianeurs. Je vous lis le passage. « J'ai déjà déclaré comment tu dois saisir que le Verbe est autre que le Père, au titre de la personne et non pas de la substance. » Sous le rapport de la distinction et non pas de la séparation, partout du reste, je maintiens une seule substance en trois qui se tiennent ensemble. Et il est arrivé à dire le mystère trinitaire et le mystère de l'incarnation avec les mots mêmes qui seront ceux de la théologie latine et que Léon fera passer au concile de Chalcédoine et qui fera que finalement la pensée latine est unifiée beaucoup plus tôt que la pensée grecque. On tire le chapeau toujours vis-à-vis de la pensée grecque avec une sorte d'adulation un petit peu naïve de nos jours parce qu'il faut se réconcilier et tout, mais on a en fait dans la théologie latine quelque chose d'antérieur, bien plus et mieux formé par des gens comme Tertullien que ce qu'on trouve à la même époque chez un, par exemple, Alexandrie, dans l'école d'Alexandrie.
Alors, il y a deux notions sur lesquelles Tertullien insiste beaucoup dans ses écrits, et là on en arrive à sa conception de la morale, ce sont les notions de mérite et de satisfaction. Qu'est-ce qu'il y a derrière là, selon lui?
Alors le mérite, dans le fond, est une chose qui correspond à la valeur d'un acte, ça c'est très latin de l'avoir souligné, c'est-à-dire... Un acte ne doit pas seulement être regardé dans les effets quantitatifs qu'il a sur l'extérieur, mais aussi sur l'effet intérieur, qualitatif. Si je suis bon à l'extérieur, je bonifie mon âme. Hein, et donc il y a le sentiment de ce qu'est le mérite. Et le mérite, évidemment, est mieux compris dans le regard du Christ, qui lui-même est par excellence la source de tous les vrais mérites, puisqu'il est vrai homme et vrai Dieu. Et cette contemplation de Tertullien n'a pas pu s'achever parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de ses tergiversations et de ses disputes. Et malheureusement, son éloignement avec l'Église ne nous donne pas énormément de pensées sur Peut-être que je recommanderais de lire la prescription des hérétiques, qui est peut-être le lieu où on comprend la distinction que veut faire Tertullien par rapport à ceux qui sont au-dedans de l'Église, par rapport à ceux qui malheureusement mangent des herbes amères, du schisme ou de l'hérésie.
On trouve chez Tertullien ce qu'il faut bien appeler une critique sévère de la vanité, mais aussi des considérations qui feraient de lui aujourd'hui la terreur des féministes. Qu'est-ce qu'il reproche donc aux femmes ?
Alors, la femme est regardée un peu comme dans, je dirais, le commun de la littérature de l'époque, et qu'elle soit biblique ou non biblique, où la femme est un peu la source des vices. Et de cette manière-là, il y a une lecture souvent très peu surnaturelle des textes de l'Ancien Testament dans lequel on voit Ève qui pêche la première, hein, Adam ne fait que suivre dans le fond, et puis les textes de saint Paul, la première épître aux Corinthiens au chapitre 7, où la même chose est rappelée, que c'est la femme qui a péché en premier et l'homme qui a péché en second, et donc il faut que la femme reste soumise à l'homme à cause de cette condition et qu'elle reste voilée. Et saint Paul a une expression curieuse dans laquelle il dit « à cause des anges ». Et cela conduit donc à cette théorie que la femme doit rester voilée, couvrir dans le fond sa plus longue chevelure que l'homme, qui peut être effectivement moyen de séduction. Ça, c'est vrai. On peut le reconnaître d'un point de vue purement anthropologique de nos jours.
Oui, alors en revanche, il dit bien que Dieu a créé la femme au même titre que l'homme. Il n'en fait pas un être inférieur à l'homme.
Alors, heureusement, c'est ça où on le voit le chrétien. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas complètement prendre par cette structure culturelle, même si elle va petit à petit le faire dévier par petits pas à toujours plus d'excès, puisqu'il impose à sa femme chrétienne de ne pas, si lui venait à mourir avant elle, de ne pas se remarier et de rester veuve. Et puis finalement, quand elle sera morte et qu'il lui sera passé du côté des montanistes, il va interdire tout remariage. Donc on sent bien qu'il se durcit à mesure que l'expérience de la vie lui est plus amère.
Il y a une expression que l'on prête à Tertullien et dont nous devons parler parce qu'elle est sujette à confusion, c'est ce qu'on appelait le credo quia absurdum. Je crois parce que c'est absurde. De quoi il s'agit précisément et pourquoi cette expression est-elle douteuse et remise en cause? Pourquoi on lui attribue manifestement à tort?
Alors, c'est certainement une erreur, c'est un apocryphe, comme on le dit, puisque nous avons les œuvres complètes latines et nulle part il est marqué cette formule. Hein, c'est un adage formé de toutes pièces à une époque anti-intellectuelle qui était ce qu'on appelle le fidéisme. Le fidéisme, c'était dire « je crois parce que je crois ». Et puis terminé. J'ai pas besoin de raison de croire. Donc ça veut dire j'ai pas besoin non plus de magistère. C'est très protestantisant, si vous voulez. Et non, jamais Tertullien n'aurait pensé une chose aussi absurde, mais la source est un extrait du traité sur la chair du Christ, des Carnets Christi au numéro 5, où Tertullien est dans un contexte donc, d'incarnation et de résurrection, chose que l'on ne peut pas atteindre par la raison humaine toute seule. Toute seule. Le fait de dire « verbum caro factum est », ce n'est pas la raison qui peut le dire, c'est la révélation seule. Et pareil pour la résurrection, ce ne sont pas des choses qui peuvent être démontrées par la raison, mais, et dans ce cadre-là, il dira « credo quia ineptum est », je crois parce que c'est inepte à la raison toute seule. Donc c'est très très différent, vous voyez, c'est pas du tout…
La nuance est très importante.
C'est pas du tout un anti-rationalisme ou un anti-intellectualisme, mais c'est bien au contraire un coup de chapeau, si vous voulez, par rapport à ce que la révélation apporte en plus de ce que la raison peut donner. Et nous avons un passage qui le prouve d'une manière tout à fait cohérente, c'est dans le De Idolatria, au numéro 10. Comment répudier les études profanes, puisque sans elles, les études religieuses ne peuvent pas exister? C'est-à-dire, j'ai besoin de la raison. Et une raison bien, bien, je dirais, forgée par la rhétorique, par la philosophie, pour pouvoir parler des études religieuses. Et la théologie chrétienne fait partie de ces études religieuses. Et donc, Tertullien, évidemment, n'a absolument aucune volonté de nous mettre en situation d'opposition, vous voyez, par rapport à la raison qu'il admire. Alors parfois, il faut bien le reconnaître que de temps en temps, c'est un rhéteur, il a des expressions magnifiques, il se laisse un peu
grisé
par sa plume, et ça on le verra plus tard aussi chez saint Augustin. Par exemple, lorsqu'il dit « Quoi de commun entre Athènes et Jérusalem, entre l'académie de Platon et l'Église, entre les hérétiques et les chrétiens ?» Vous voyez, ce sont des expressions où on utilise des oppositions pour mieux comprendre où est le bien et où est l'erreur, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas ce qu'il y a de vrai et de bon dans l'académie, de ce qu'il y a de vrai et de bon à Athènes. Vous voyez, ce n'est pas du tout ça. Et c'était des méthodes que l'on utilisait beaucoup par les avocats, par la rhétorique générale, où on utilise toujours des oppositions par pair.
Pour revenir à la théologie, à la morale de Tertullien, à l'œuvre qu'il a laissée, est-ce qu'elles sont encore étudiées de nos jours, par exemple dans les séminaires ou dans les facultés de théologie? Est-ce que c'est encore important de s'y référer?
Oui, parce qu'il y a des expressions qui sont incontournables. Par exemple, « caro cardo salutis », la chair est le pilier du salut. C'est-à-dire, je ne peux pas proposer seulement un salut de l'âme, je dois proposer un salut intégral. Et vous avez remarqué que souvent les papes utilisent le mot intégral, comme le progrès intégral, comme
l'écologie intégrale,
etc. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a corps et âme. Caro, cardo, salutis. La chair est le pilier. Et donc on en a toujours besoin, et on le répète sans cesse. Et pour pouvoir répéter une petite phrase de trois mots, il faut étudier l'auteur, il faut étudier les sources, il faut étudier tout. Sinon, on risque d'apparaître évidemment seulement comme un diseur de citations.
Si vous deviez conseiller la lecture de certains de ses écrits, ou en tout cas une porte d'entrée à l'œuvre de Tertullien, qu'est-ce que vous conseilleriez en priorité?
Alors, bien sûr, la catéchèse de Benoît XVI, réacheter la fameuse grande écrit de Benoît XVI, a vraiment été un maître qui nous a introduit à tous les grands écrivains ecclésiastiques et pères de l'Église. Et parmi les textes proprement dits de Tertullien, je l'ai cité tout à l'heure, c'est le De Orationé, c'est un commentaire du Notre Père et qui explique très bien, mot à mot, les expressions, en particulier le « ne nous soumet pas à la tentation » dans le sens « ne nous laisse pas entrer en tentation » comme nos chers évêques l'ont retraduit il y a peu de temps.
Dans le Notre Père.
Dans le Notre Père, et c'est tout à fait en harmonie avec la pensée, vous voyez, de Tertullien.
Est-ce qu'il y a une biographie qui fait référence pour Tertullien ou une somme de ses écrits?
Alors, pas particulièrement. Le dernier grand ouvrage qui est paru, c'est « Découvrir les Pères de l'Église » avec Marie-Anne Vanier, nouveau manuel de patristique qui peut être un outil, mais qui est, pour ceux qui ont un peu de bouteille, laisse un peu sur sa fin.
Ouais. Merci beaucoup, frère Édouard, de nous avoir fait mieux connaître la vie et les écrits de Tertullien, qui restent encore aujourd'hui des références dans la théologie chrétienne. Je signale tout de même que ses œuvres complètes ont été rassemblées dans un recueil paru en 2017 aux éditions des Belles Lettres. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite de notre série dédiée au Père de l'Église. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la réalisation Jonathan Botello. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.